Depuis quelques années, des recherches ont été effectuées quant à l'adaptation des très jeunes enfants au milieu aquatique. En 1974, l'unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique de Nancy crée un centre d'application qui se propose de vérifier l'hypothèse suivante. Le milieu aquatique favorise le développement psychomoteur des enfants du premier âge. On peut penser en effet que l'enfant, confronté très jeune à un milieu nouveau, bouleversant ses habitudes terrestres, est appelé à réagir à des stimulations diverses, ce qui contribue à son épanouissement physique et à son éveil intellectuel.
Il s'agit de mettre les enfants dans l'eau. Confronté à ce nouveau milieu, l'enfant doit esquisser un certain nombre de réactions d'adaptation en présence et avec l'aide de la mère. La démarche s'articule ainsi sur les points suivants. Premièrement, on vérifie le bon fonctionnement des réflexes, c'est-à-dire fermeture de la bouche et ouverture des yeux. Deuxièmement, on déclenche des activités spontanées par des stimulations externes. Troisièmement, on crée des situations problèmes aménagées et adaptées aux possibilités de l'enfant.
Il est évident que ces situations problèmes entraînent des réactions d'adaptation, ce que l'on pourrait appeler des solutions. Quatrièmement, on répète ces différentes situations problèmes pour tenter de conduire l'enfant vers une intégration de ces solutions et lui permettre ainsi d'aborder des situations de plus en plus complexes.
Dès les premiers contacts, la mère tient l'enfant de manière à ne pas gêner la motricité des bras et des jambes.
Bien, alors maintenant, vous allez prendre votre enfant à la taille, face à vous. Voilà. Parlez-lui, jouez, souriez. Bien, maintenant, essayez de mettre sa bouche au ras de l'eau. Voilà. Mettez-vous à son niveau, c'est très bien. Et maintenant, vous allez faire des évolutions latérales, une sorte de manège, en position ventrale, dorsale, verticale, en jouant. Allez-y. Voilà, même un peu plus vite si vous le voulez. Il faut jouer très bien.
C'est dans cette situation que l'on commence à déclencher la fermeture de la bouche. Le renforcement positif suit immédiatement l'action. Un des multiples exercices permettant à l'enfant de s'habituer au passage rapide du milieu aérien au milieu aquatique est le saut entre parents. L'enfant esquisse dans cette relation un certain nombre de réactions d'adaptation, comme par exemple la fermeture de la bouche, l'ouverture des yeux, l'écartement des bras, etc. L'immersion constitue un maillon important de la démarche, une étape nécessaire. Elle est d'ailleurs à la portée de chaque sujet. Lorsque la maîtrise de celle-ci s'est affermie, on lâche progressivement l'enfant. Celui-ci se meut alors dans l'espace aquatique en état d'apesanteur. Les parents proposent aux nourrissons des situations nouvelles en rapport avec leurs possibilités. Le saut constitue un de ces exercices. Au début, l'enfant assis sur le bord est passif aidé. La maman, après des signaux préparatoires, l'entraîne dans l'eau. Au fur et à mesure des acquisitions et de la croissance de l'enfant, l'indépendance de celui-ci va en augmentant. l'attitude des parents doit être la plus positive possible afin de solliciter les essais moteurs des sujets. Des temps libres sont aménagés afin de leur permettre de s'adapter et d'appliquer leurs acquisitions antérieures. On constate dès lors une amélioration de l'activité qui permet l'incorporation de nouveaux schèmes d'action. L'exercice de ces derniers permet l'élaboration de praxis de plus en plus hautement organisées, telles l'orientation et la propulsion. On peut estimer que ce dernier stade précède l'apprentissage plus technique de la natation proprement dite, l'enfant étant alors en possession des structures psychomotrices nécessaires. La progression de l'activité motrice peut être schématisée par 12 paliers progressifs d'acquisition motrice, regroupables en 4 étapes. Familiarisation, comportement moteur passif aidé, comportement moteur actif aidé, comportement moteur indépendant. La familiarisation se fait par le contact et les jeux que l'enfant effectue avec l'aide des parents. C'est un premier palier important qui conditionne toute la progression ultérieure. Dans la seconde étape, les différents paliers se traduisent chacun par des exercices s'enchaînant progressivement. Évolution ventrale, verticale, dorsale. Saut assisté sans immersion. Immersion assistée. Saut assisté suivi d'une immersion assistée. L'accent dans cette étape était mis sur la progression de l'activité motrice. Cette progression était soutenue et dirigée par les parents. Ensuite, l'enfant réagit mieux et devient plus actif. Les parents l'aident toujours, mais le préparent à l'indépendance. Le déplacement avec ou sans palme, prémisse de la propulsion, sera suivi d'une immersion lâchée. Cette habituation à l'indépendance conduit l'enfant à l'étape finale, c'est-à-dire le saut indépendant. Le saut indépendant suivi d'un déplacement. La propulsion et l'orientation. L'acquisition du rythme respiratoire. Et enfin, le passage de la position vertico-ventrale à la position horizontale. Ainsi, de passif au premier palier, l'enfant devient-il peu à peu capable de réagir d'une manière de plus en plus indépendante lorsqu'il atteint les exercices proposés. Cette progression se fait durant un laps de temps variable, en 20 séances pour certains enfants et 40 pour d'autres, et en 3 à 6 mois en moyenne. L'histogramme du pourcentage de réussite des enfants aux différentes étapes montre que le premier palier est passé par tous les enfants. ...92% d'entre eux atteignent le palier 5. ...81,7% le palier 7. ...65,5% le palier 9. Et qu'actuellement, 13,8% des bébés atteignent une grande indépendance. Ils réalisent les exercices des paliers 10, 11, 12. Il convient de commenter ces acquisitions. Nous savons que les enfants possèdent des montages héréditairement programmés. Ils permettent leur première adaptation dans la vie. Ce sont certains de ces montages, les réflexes, que nous utilisons comme point de départ. Se pose alors le choix des situations problèmes en rapport avec les possibilités de l'enfant. Pour qu'une situation prenne une signification aux yeux du sujet et qu'elle reçoive une réponse de sa part, il faut qu'elle mobilise un ou plusieurs des schèmes présents. De situation en situation, l'enfant, par ses acquisitions successives, arrive à un certain degré d'autonomie. Au niveau des dernières étapes, on observe les réactions suivantes. L'orientation de la tête vers la surface permet la situation dans l'espace. L'action des jambes sous forme de pédalage le fait remonter ou l'aide à se propulser. Le rôle des bras est soit propulsif, soit stabilisateur. Ces réactions amènent le sujet à posséder une certaine maîtrise respiratoire, lui permettant des apnées d'une dizaine de secondes. Pour contrôler ces acquisitions, nous avons testé deux fois, par l'application de la batterie de Brunet-Lézine, un même groupe d'enfants à 15 mois puis à 18 mois. Les résultats concernant les différentes sphères du comportement ont été comparés à ceux établis par les auteurs sur une population moyenne de 2225 enfants. Au niveau coordination, la population moyenne passe de 59 points à 15 mois à 71 points à 18 mois. Le groupe expérimental, supérieur de 7 points au départ, atteint 96. Cette différence, ce gain obtenu par le groupe expérimental, est statistiquement significatif. Pour la posture, la population moyenne passe de 40 à 47, tandis que le groupe expérimental passe de 51 à 69. Ici aussi, cette progression est statistiquement significative. Dans la sphère du développement du langage, la population moyenne progresse de 15 à 21 points, tandis que notre groupe atteint presque 40. Malgré la légère avance ou supériorité à 15 mois, manifestée dans ces trois domaines par le groupe expérimental, et due en partie au fait que ces enfants appartiennent en majorité à un milieu socio-familial favorisant, la différence constatée au niveau du langage est elle aussi significative. Enfin, pour ce qui est de la sociabilité, la différence constatée n'est pas statistiquement significative et aucune conclusion ne peut en être tirée. Ce résultat était à prévoir, une véritable socialisation de l'enfant n'intervenant que plus tard. Comparons enfin le quotient de développement global des enfants du groupe expérimental à celui de la population moyenne. Rappelons que ce QD est le rapport entre l'âge de développement et l'âge réel. L'âge réel des enfants est de 15 mois au premier test, de 18 mois au dernier. L'âge de développement de la population moyenne est donc également de 15 et de 18 mois, tandis que l'âge de développement de notre groupe est de 16 mois et 23 jours au premier test, passant à 24 mois et 10 jours lors de la dernière passation. Le QD global, rapport entre l'âge de développement et l'âge réel, qui est de 1 pour une population moyenne, est de 1,12 pour notre groupe au premier test et de 1,35 au dernier test. Là aussi, la différence est statistiquement significative. Nous pouvons donc conclure, tout en nuançant les résultats, que la mise à l'eau dès la prime enfance, techniquement suivi, psychologiquement et médicalement encadré, permet une progression plus dynamique de l'activité globale des bébés, favorisant ainsi un développement plus harmonieux et un contact plus fructueux des rapports parents-enfants.
Il faut, et ce après examen et enquête, souligner que nous n'avons pas observé de recrudescence des rhinopharyngites, des otites, des bronchites ou autres affections infantiles chez ces jeunes enfants fréquentant la piscine de façon régulière depuis 1973.
Le résultat positif nous a donc conduit à élargir notre champ d'action et à l'ouvrir à la catégorie des enfants handicapés et, plus précisément, aux enfants infirmes moteurs cérébraux.
L'infirme moteur cérébral est un enfant qui présente une lésion cérébrale survenue de très bonne heure dans la vie à un stade de grande immaturité cérébrale. Cette lésion n'est pas évolutive. Elle est souvent la conséquence d'une souffrance néonatale ou d'une prématurité. Elle se manifeste sur le plan moteur par des difficultés de la commande du mouvement volontaire sur 1, 2, 3 ou 4 membres, avec soit une spasticité, c'est-à-dire une exagération du réflexe d'étirement, soit une athétose caractérisée par des mouvements involontaires de repos. À ces difficultés motrices s'ajoutent fréquemment d'autres troubles aggravant le handicap, troubles sensitifs, sensoriels, affectifs et surtout intellectuels.
L'accoutumance de ces enfants à l'eau ne se traduit pas de la même manière que chez les sujets normaux. Il existe une sensibilité particulière à des stimulations multiples et on constate une exagération de leurs difficultés motrices. La fréquentation régulière de la piscine peut permettre une diminution de cette sensibilité. Pour ces enfants, l'utilisation du milieu aquatique suppose trois objectifs. En premier lieu, l'amélioration du maintien postural de la tête et du tronc par des stimulations les plus diverses et adaptées au handicap des sujets. En deuxième lieu, l'amélioration de l'équilibre en toute position. Et enfin, la coordination des mouvements. En effet, les enfants en état d'apesanteur peuvent exprimer un plus grand nombre d'essais moteurs, l'exercice de ces essais jouant de manière indéniable sur l'amélioration de leur motricité. La participation du père ou de la mère à l'expérience joue un rôle prépondérant dans les progrès observés, la relation affective parent-enfant servant de ciment à la réalisation des exercices. La progression de ces exercices dérive directement de la méthode employée avec les enfants normaux. Les résultats obtenus pour chaque sujet sont fonction de son handicap. Mais nous avons pu remarquer une diminution des mouvements anormaux, une certaine décontraction des membres inférieurs, une réaction équilibratrice des bras et des jambes, un contrôle de la respiration voisin de celui obtenu chez les enfants normaux. Certains de ces enfants ont atteint dans l'eau un degré d'autonomie qu'ils ne possèdent pas sans aide sur Terre. Les résultats positifs sont encourageants et nous incitent à poursuivre l'application et l'élargissement de la méthode.
Bien, en ma qualité de psychiatre d'enfants, je voudrais dire combien j'ai été intéressé par cette expérience nancéenne sur les bébés nageurs et combien j'ai été séduit aussi et rassuré par le sérieux de cette réalisation. On sait en effet combien les mères peuvent apprécier, et ceci dès les premières semaines de la vie, le plaisir qu'éprouve un enfant lorsqu'il est plongé dans son bain. Et il était tentant, évidemment, de vouloir étendre cette expérience à un milieu plus vaste, dans lequel l'enfant se sentirait plus à l'aise, dans lequel il pourrait mieux se réaliser sur le plan de la motricité, et en même temps où il pourrait établir de nouveaux schèmes, et surtout établir une relation plus étroite et plus riche avec sa mère qui participe à cette expérience, qui se trouve auprès de lui, qui le stimule et qui établit donc par là de nouvelles relations avec lui ou qui en enrichit des anciennes. Je crois qu'il est également tentant de vouloir étendre cette expérience à d'autres catégories d'enfants et en particulier aux enfants handicapés, qu'il s'agisse d'enfants handicapés mentaux, d'enfants handicapés moteurs ou plus souvent évidemment à cet âge, d'enfants handicapés sur le double plan psychomoteur. On connaît en effet les limitations multiples qu'éprouvent ces enfants dans le domaine de la motricité, dans l'acquisition de leur schéma corporel, dans la réalisation de leurs premières expériences, tant psychiques que motrices, et on peut attendre de cet essai, de cette expérience, une stimulation sur tous les plans. Stimulation sur le plan moteur, c'est évident, stimulation sur le plan intellectuel, car on ne peut pas dissocier les deux choses, et stimulation sur le plan affectif, exactement comme pour les enfants normaux.